VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bienvenue à l'édition du jeudi 5 mars 2015. À la une ce soir.
À la une dans le nord-est du Nigeria, nouvelles exactions attribuées à la secte islamiste Boko Haram.
Et de nouveaux massacres ont été signalés. Au moins 68 personnes ont été tuées par des hommes très lourdement armés à Njaba.
Paul Kagame restera-t-il au pouvoir après 2017 ? Des voix s'élèvent déjà à Kigali en faveur d'une réforme constitutionnelle.
En proie à une recrudescence des attaques des djihadistes, le président égyptien installe un nouveau patron au ministère de l'Intérieur.
Et nous vous emmènerons au salon Sahel 2015 qui bat son plein à Niamey au Niger.
On sait connaître ce que nous faisons et nos produits seront connus par le public. Donc vraiment c'est ça l'intérêt même vraiment du salon pour nous.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Nouveau massacre attribué à Boko Haram dans un village du nord-est du Nigeria. Au moins 68 personnes, dont des jeunes, ont été tuées par des hommes très lourdement armés à Njaba, dans l'état de Borno. C'est ce que rapporte l'AFP, qui cite des témoins et des membres d'une milice locale. Ils se sont mis à tirer sur les habitants qui tentaient de fuir, affirme un témoin. Le village aurait été entièrement brûlé. Des enfants auraient été pris pour cible. L'assaut aurait été lancé depuis Gouaza, une ville sous le contrôle de Boko Haram depuis le mois de juin. Et justement, d'autres exactions ont été rapportées à Gouaza. Les djihadistes qui ont rassemblé des troupes dans cette ville ont exécuté des jeunes hommes qui étudiaient le Coran devant la résidence d'un responsable religieux local. D'après un témoin et un sénateur cité par l'AFP, ils ont été tués devant leurs femmes.
Au Burkina Faso, le président Michel Kafando exhorte l'armée à se tenir loin des chapelles politiques. C'est ce qu'indique l'AFP. Ces déclarations interviennent quelques semaines après la crise provoquée par la garde présidentielle qui avait exigé la démission de son numéro 2, Isaac Zida, un haut gradé de l'armée devenu Premier ministre.
Paul Kagame pourrait bientôt se joindre à la longue liste des présidents africains qui s'éternisent au pouvoir. Dans les médias rwandais, les voix se multiplient en faveur d'une réforme constitutionnelle permettant le maintien de l'actuel président à la tête de l'État après 2017, date des prochaines élections. On fait le point avec Salwa Jafari.
La machine propagande est bel et bien en marche. Sur les ondes, sur le petit écran, dans la presse écrite, on martèle les mêmes messages. Paul Kagame est le meilleur, le chaos régnerait dans le pays sans lui. Les louanges le décrivent comme un leader actif, efficace, artisan de succès économique, protecteur de la population. Bref, l'homme mérite de briguer un troisième mandat. Pour l'instant, la Constitution lui interdit de le faire. Kagame pourrait néanmoins suivre l'exemple de Pierre Nkurunziza du Burundi, de Joseph Kabila de la RDC ou encore de Blaise Compaoré du Burkina. Il suffirait qu'il change la Constitution. La campagne médiatique a donc pour but d'habituer la population à cette idée. Le parti au pouvoir dément pourtant toute manipulation. Ses prises de parole sont des initiatives individuelles, explique-t-il. Paul Kagame reste lui évasif sur la question. Dans une interview le week-end dernier, il a dit que c'était au peuple rwandais qu'il fallait demander s'il serait prêt à changer la constitution.
Grève générale au Burundi, l'appel lancé par un collectif contre la vie chère a été suivi de manière contrastée à Bujumbura, constate l'AFP. Les bus, taxis, vélos et taxis moto se comptaient au compte-gouttes et la plupart des écoles et des magasins étaient fermés. Mais le mot d'ordre, motivé par la hausse des prix de l'essence et une nouvelle taxe sur les appels téléphoniques, était moins respecté dans le secteur public.
Au Zimbabwe, deux anciens dirigeants de la ZANU-PF ont saisi la justice, qualifiant d'illégale leur exclusion du parti au pouvoir. Les précisions d'Eddie Isango.
La plainte déposée par l'ancien porte-parole de la ZANU-PF, Rugare Gumbo, et l'ancien secrétaire administratif Didymus Mutasa vise les partis, les présidents Robert Mugabe et Simon Kayamoyo, porte-parole du parti. Les plaignants demandent à la justice d'invalider les derniers congrès du parti qui les a invincés, disant que celui-ci n'avait pas respecté les procédures en vigueur. Ils accusent par ailleurs la première dame zimbabwéenne d'avoir sémé la zizanie parmi les dirigeants du parti, rapporte l'AFP. Tenu en décembre, les congrès en question avaient reconduit le président Mugabe, âgé de 91 ans, à la tête du parti et confié à son épouse Grace, 49 ans, les reines de l'organisation des femmes du parti. Avant cette rencontre, les chefs de l'État zimbabwéen avaient opéré dans les rangs de la ZANU-PF une purge visant plusieurs responsables, en particulier l'ancienne vice-présidente Joyce Mujuru, accusée de corruption et d'incompétence par Madame Mugabe. Madame Mujuru a été remplacée par Emmerson Mnangagwa, un proche du président Mugabe.
Crise libyenne, une réunion entre les deux parlements rivaux a débuté aujourd'hui au Maroc. L'objectif, rapporte l'agence France-Presse, est de trouver une personnalité pouvant diriger un gouvernement d'union nationale.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Remaniement ministériel en Égypte, le président Abdel Fattah el-Sissi a remplacé aujourd'hui son ministre de l'Intérieur, Mohamed Ibrahim, qui supervisait la sanglante répression lancée contre les partisans de l'islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée. Il a été remplacé par Magdi Mohamed Abdel Hamid Abdel Ghaffar, issu des rangs du département de la sécurité nationale, nommé sous Morsi. En janvier 2013, Monsieur Ibrahim a été remplacé, souligne l'AFP, au moment où les forces de sécurité peinent à enrayer les attentats djihadistes qui secouent régulièrement le pays. Le dernier de ces attentats a eu lieu lundi en plein cœur du Caire, près de la Cour suprême, faisant 2 morts. Outre l'intérieur, ce remaniement a aussi visé les ministères de l'Agriculture, de l'Éducation, de la Culture, du Tourisme et des Communications.
Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies commence une session de moins cette semaine et un récent rapport alléguant la torture dans une prison gambienne sera à l'ordre du jour. Pour la première fois, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a visité la Gambie en octobre dernier et pour la première fois également, durant le mandat du rapporteur, on lui a refusé le libre accès au lieu de détention, selon Sabrina Matani, chercheur pour l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International. Cette attention portée à la situation en Gambie, a-t-elle ajouté, pourrait fournir à d'autres nations l'occasion de faire pression sur le régime de Yahya Jammeh pour qu'il se penche sur les questions de droits humains dans son pays.
De violents combats ont opposé aujourd'hui l'armée syrienne aux rebelles à Alep au lendemain d'un attentat spectaculaire des insurgés contre les services de renseignement pour marquer le refus de la trêve de l'ONU. On fait le point avec Jacques Aristide.
L'attaque de mercredi soir ont fait 20 morts parmi les troupes gouvernementales et 14 chez les rebelles, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, qui signale également qu'au moins 18 civils ont été tués, dont 8 totalement brûlés, tel que le rapporte l'AFP. C'était lors d'un raid d'un hélicoptère qui a largué un baril explosif sur des personnes rassemblées pour acheter du fioul dans le quartier rebelle de Khadi Askar, dans l'est d'Alep, selon l'ONG. Des bombardements rebelles contre le secteur gouvernemental avaient coûté la veille la vie à 9 civils, dont 2 femmes et 3 enfants, notamment dans le quartier de Salahedin, à l'ouest, où l'émissaire de l'ONU, Stéphane de Mistura, entendait proposer une trêve. Depuis Paris, le chef de l'opposition syrienne en exil, Khaled Khodja, a parlé de la nécessité d'adopter une nouvelle stratégie pour tenter de relancer les négociations de paix. Pour lui, le départ préalable du président syrien Bachar al-Assad n'est pas une condition préalable au début du processus.
Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra demain une réunion sur le conflit dans l'est de l'Ukraine. C'est ce qu'indiquent certains diplomates cités par l'AFP. À cette rencontre, un rapport sur la situation sera présenté par le secrétaire général adjoint aux affaires politiques, Jeffrey Feltman, celui chargé des droits de l'homme, Ivan Simonovitch, et le directeur des opérations humanitaires, John Ging. Un calme relatif règne actuellement dans l'est ukrainien, où le retrait des armes lourdes a commencé et un cessez-le-feu semble être globalement suivi. Un dernier bilan de l'ONU fait état de plus de 6000 morts en Ukraine depuis le début des violences en avril 2014.
Et ce bilan, Gabi, ne concerne pas que les Ukrainiens. Les combats, les soldats russes meurent en grand nombre au combat dans l'est de l'Ukraine, a déclaré aujourd'hui à Riga, en Lettonie, le secrétaire général adjoint de l'OTAN, Alexander Vershbow. Ce dernier, précise l'AFP, prenait la parole lors d'une conférence de parlementaires européens. La Russie a jusqu'à présent démenti la présence de ses soldats en Ukraine. L'OTAN ne cherche pas la confrontation avec la Russie, mais la Russie ne semble plus souhaiter s'intégrer à la communauté euro-atlantique, a dit le responsable de l'OTAN.
La Banque mondiale fait son mea culpa sur les conséquences néfastes des déplacements forcés de population dans le cadre de projets qu'elle finance. Le point avec Michel Joseph.
Nous avons examiné ce que nous faisons dans ce domaine et ce que nous avons trouvé suscite chez moi de profondes inquiétudes, reconnaît le président de la Banque mondiale. Jim Yong Kim déplore plusieurs problèmes importants. Premièrement, la Banque mondiale n'a pas assez contrôlé les projets impliquant des déplacements de population. Deuxièmement, les plans n'ont pas été appliqués de façon correcte. Enfin, explique le président de la Banque mondiale, les instruments de contrôle suffisants pour assurer que nos politiques sont respectées n'ont pas été mis en place. Nous ferons mieux, promet Jim Yong Kim. Il a annoncé le lancement d'un plan d'action pour y remédier.
L'ambassadeur américain en Corée du Sud se porte bien et a le moral. Mark Lippert a fait lui-même cette déclaration ce matin après avoir reçu des soins dans un hôpital suite à une attaque au couteau subie hier de la part d'un homme revendiquant la réunification des deux Corées. Il a été touché au visage et au poignet. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Billon.
Le président Barack Obama encourage les réformes en Tunisie en vue de relancer l'économie et pérenniser les progrès démocratiques. Dans un message vidéo adressé hier aux Tunisiens à la faveur de la conférence sur l'investissement et l'entrepreneuriat à Tunis, le chef de l'exécutif américain a notamment déclaré « Comme vous, nous savons que la démocratie a besoin d'institutions démocratiques fortes, mais aussi de croissance économique, d'opportunités pour que les citoyens constatent que la démocratie peut conduire à une vie meilleure. » Le tout nouveau livre numérique 100% Made in République démocratique du Congo est sur le marché. Vraiment, Congo, une tribu, est le premier livre électronique, e-book, produit et réalisé en RDC, puis mis en vente sur Amazon, Kobo, Fnac ou encore Google, a indiqué à l'AFP son auteur Yaya Hassani, de son vrai nom Marcel Yabili. La version numérique est téléchargeable à 3,49 € contre environ 9 € en version papier. Et la National Oil Corporation, la compagnie pétrolière libyenne, a déclaré un état de force majeure dans 11 des champs pétroliers à l'arrêt des suites de l'attaque des militants présumé du groupe État islamique. La décision prise hier fait état d'une recrudescence des vols, pillages, sabotages et destructions de ces installations et selon les autorités, elle pourrait être étendue à d'autres champs du pays.
C'était la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Et l'on passe tout de suite au sport avec Timothée Dounangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Gabi.
Parlons football et parlons des Lions du Sénégal.
Et oui, ils ont un nouvel entraîneur. Il s'agit de leur compatriote Aliou Cissé qui remplace le français Alain Giresse, dont le contrat n'a pas été renouvelé après l'échec en CAN 2015. Jusqu'ici, entraîneur de moins de 23 ans chez les Lions, Cissé a été le capitaine des Lions de la Teranga à la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, et au Mondial 2002. C'est un ancien sociétaire du PSG et de Lille, mais aussi de Birmingham et de Portsmouth en Premier League anglaise.
Cap sur l'Espagne, la finale de la Coupe du Roi, la Copa del Rey, mettra aux prises Barcelone et l'Atlético Bilbao.
Et oui, Gabi, Barcelone s'est imposé hier soir en demi-finale retour sur le même score qu'à l'aller, 3-1 face à Villarreal. Et après le nul de l'aller, un but partout, l'Espagnol de Barcelone a concédé une défaite 2-0 contre Athletic Bilbao.
Revenons aux États-Unis, toujours en foot, coup d'envoi dimanche de la saison 2015 de la Major League Soccer.
À cette occasion, New York City alignera David Villa et Frank Lampard dans son match contre Orlando, tandis que le club floridien comptera dans ses rangs le légendaire Kaka. La Major League Soccer attend aussi l'arrivée en juin de Steven Gerrard au Galaxy de Los Angeles, mais a perdu en fin de saison les services de Landon Donovan et de Thierry Henry, tous deux partis à la retraite.
Et Vladimir Poutine qui veut limiter les dépenses, semble-t-il, en 2018.
Alors que la Coupe du Monde 2014 avait provoqué de graves émeutes au Brésil, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a annoncé vouloir économiser plus d'un milliard d'euros sur l'organisation du prochain mondial en 2018. Selon le journal espagnol AS, cette annonce contraindrait Sepp Blatter à revoir certaines de ses exigences à la baisse. Le président de la FIFA aurait, par exemple, autorisé la Russie à construire deux stades de moins de 45 000 places, ceux de Kaliningrad et d'Ekaterinbourg, qui ne pourront accueillir que 35 000 spectateurs.
Ne parlons pas de Washington Wizards, on ne veut pas rendre Lionel Gaïma plus triste, mais disons que Cleveland, dans la NBA, a contenu un sursaut de dernière minute de Toronto pour s'imposer hier, Timothée, 120 à 112. Merci pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorcil et Morgane Guiriec, en votre compagnie, place au dossier du jour.
Quelques 16 000 réfugiés nigériens ont récemment rejoint la région de l'extrême nord au Cameroun après avoir fui des affrontements entre les forces armées régionales et des miliciens de Boko Haram au Nigeria. Selon Roselyne Okoro, la représentante adjointe du HCR au Cameroun, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés travaille avec les autorités camerounaises pour transférer les réfugiés des environs du camp de Minawao vers d'autres sites. On l'écoute.
Et nous avons reçu les informations des autorités faisant état des 16 000 nouveaux réfugiés, 16 000 afflux de réfugiés dans les localités de Makaria, Logon, Bani et Fotokol, juste au sud du lac Tchad. Nous sommes en train de faire relocaliser ces réfugiés des endroits où ils se trouvent, parce qu'ils se trouvent dans trois localités que je viens de mentionner. Et nous ne sommes pas vraiment à mesure de confirmer exactement parmi les 16 000 si tout le monde est réfugié. Donc il y aura un screening qui sera fait déjà sur place parce qu'il y avait soupçon d'infiltration de Boko Haram parmi ces personnes-là. Donc il y a d'abord un screening militaire qui sera fait et ensuite l'OHCR va faire son profilage, son screening aussi, très basique, pour voir si ces personnes donc sont effectivement des réfugiés avant de procéder à leur relocalisation.
S'ils sont relocalisés, où comptez-vous les emmener?
Il y a déjà deux camps de réfugiés qui sont pas trop loin de la ville de Maroua. Donc il y a le camp de Minawao. Bon, ce camp est déjà plein, est déjà saturé. Mais les autorités locales nous avaient désigné un deuxième camp qui s'appelle Gawar. Donc, qui est tout à fait proche de Minawao, à peu près 2 kilomètres de Minawao. Donc, on va les transférer dans le camp de Gawar.
Vous dites que le camp de Minawao est déjà saturé. Combien de personnes se trouvent déjà dans ce camp?
Nous sommes à 32 600 pour l'instant.
Et dans le camp à Minawao, vous êtes en mesure de leur fournir une aide de base, une aide élémentaire, des couvertures, quelques ustensiles de cuisine?
Nous leur offrons toute la gamme d'assistance humanitaire. D'abord, on construit les abris d'urgence pour eux. Et puis, il y a aussi la fourniture des vivres par le PAM, parce que ce n'est pas seulement l'OHCR qui intervient. Il y a des autres agences sœurs des Nations Unies qui travaillent selon le secteur de leur spécialisation. Donc, je venais de mentionner le programme alimentaire mondial qui fournit les vivres aux réfugiés. On fait forer des forages pour l'approvisionnement en eau. C'est une activité qui est menée par l'OHCR et avec l'UNICEF aussi et d'autres acteurs humanitaires qui sont sur le terrain. Nous les aidons avec les soins médicaux. C'est toute une gamme de choses, quoi.
Voilà, c'était Roselyne Okoro, représentante adjointe du HCR au Cameroun, jointe par Camille Gros-Didier.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Au Nigeria, le programme d'Amnesty lancé il y a 6 ans en faveur des groupes militants du delta du Niger a permis de réduire les attaques contre les installations pétrolières. Certains craignent que le gouvernement n'y mette un terme d'ici la fin de l'année. Notre envoyé spécial Chris Stein a récemment séjourné dans le delta du Niger. Voici son reportage repris par Lionel Gaïma.
En plus de nos... Les jours où Godi Kaduna dirigeait un groupe armé dans le delta du Niger sont passés. Ses partisans et lui reçoivent de l'argent du gouvernement pour renoncer aux attaques contre les installations pétrolières et aux prises d'otages. En dépit d'être le centre de l'industrie pétrolière nigériane, le delta du Niger reste désespérément pauvre. Le programme d'Amnesty lancé en 2009 verse à quelque 30 000 ex-militants l'équivalent d'environ 325 dollars par mois et par personne. Il fournit aussi à certains une formation professionnelle, une approche qui a réduit la violence dans la région. Toutefois, les ex-militants redoutent la fin du programme. Ce sera peut-être le cas si le président Goodluck Jonathan est réélu le 28 mars. Mais ils sont sûrs que le programme prendra fin si l'opposant Muhammadu Buhari, jugé peu sympathique à l'égard de leur région, est porté à la tête du pays. Aucune décision n'a été prise, a assuré le porte-parole du programme, mais pour Godi Kaduna, la fin de l'amnistie ne peut mener qu'à la reprise de la violence.
Most of our people have been trained.
La majorité de nos gens n'ont pas reçu de formation professionnelle, donc si vous voulez mettre un terme au paiement sans fournir d'emploi à ces gens, la situation ne peut que se détériorer. Pour l'activiste Anne Keogh-Briggs, le programme d'Amnesty n'est pas une panacée aux problèmes de la région.
Nous en sommes maintenant à 6 ans et 2015 est une bonne année pour conclure le programme. Il ne s'agit pas d'un programme de développement, mais d'un programme pour contenir 30 000 jeunes qui auraient porté des armes.
Il y a eu peu d'améliorations des chances d'emploi dans le delta du Niger, reconnaît Mme Briggs, en déplorant que les 6 années de paix n'aient pas été mises à profit pour relancer l'économie de la région. Derrière un atelier de soudure de la ville d'Ougeli, dans le delta, d'anciens militants se réunissent pour boire du vin de palme mélangé au cannabis. L'un d'eux, Odens Odé, dit qu'il ne reprendra pas les armes même s'il ne recevait plus de l'argent du gouvernement. D'autres, cependant, pourraient le faire. Nous ne siphonnons plus de pétrole brut parce qu'on nous a demandé de cesser. Mais, vous savez, un homme en colère et affamé, certains pourraient être patients, mais d'autres reprendraient les attaques contre les oléoducs. Moins diplomates, ses compagnons prédisent une nouvelle guerre en cas d'arrêt de paiement gouvernementaux.
Le Monde aujourd'hui, le Salon Sahel 2015 bat son plein à Niamey, où quelques 30 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. C'est la 2e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage, organisé par le gouvernement nigérien qui souhaite valoriser les produits locaux et créer une plateforme de l'agriculture en Afrique. Nathalie Barge a joint sur place hier soir sa Madame Haruna. Elle est chargée de programme au sein de la Fédération des unions de coopératives de producteurs de riz Fukopri Niger, engagée dans la campagne Cultivons.
Nous avions les femmes qui font la transformation du riz. Déjà, à travers ce salon, on fait connaître ce que nous faisons. Et nos produits seront connus par le public. Donc, c'est ça l'intérêt même vraiment du salon pour nous.
Alors justement, le thème, c'est la valorisation des produits locaux. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer des personnes qui pourraient notamment vous appuyer dans vos projets?
Oui, en tout cas déjà, je gère un projet relatif à la promotion de ces produits à travers un projet qui est redynamisation de la chaîne de valeur. Donc déjà, nous avons un financement de Agra dans ce sens. Et aussi, par rapport à ce que les femmes font, nous sommes en partenariat aussi avec la FNV et... À travers les actions qu'on a menées avec la SNV, aussi, on a fait des actions de visibilité, on a organisé des foires pour faire connaître le produit, notamment le riz que nous produisons à travers les membres du réseau Sucopri. Il y a aussi un autre mouvement, campagne Cultivons. Nous faisons partie du réseau Cultivons. Et à travers Cultivons, il y a des actions qui sont en train de faire même pour que même le gouvernement, l'État, s'intéressent à ce que nous faisons.
Combien y a-t-il de femmes d'écumeuses de riz au sein de la fédération au Niger?
En tout cas, présentement, nous avons l'union départementale des femmes écumeuses qui sont dans le réseau Sucopri. Et ces unions-là totalisent 26 groupements de femmes écumeuses. Et ces 26 groupements ont environ 1500 femmes à la base.
Madame Haruna, chargée de programme au sein de la Fédération des unions des coopératives de producteurs de riz au Niger.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
À l'approche de la Journée internationale de la femme le 8 mars, l'Union interparlementaire estime qu'une action s'impose pour atteindre la parité au sein des parlements, malgré 20 années de progrès. Les femmes au Parlement, 1995-2015, est le titre de son analyse publiée aujourd'hui. Pour un aperçu des progrès en Afrique subsaharienne, Nathalie Barge a joint à Genève Karine Jabre, chef de programme sur l'égalité des genres à l'UIP.
Si vous regardez aujourd'hui les pays qui ont le plus haut taux de femmes parlementaires, aujourd'hui dans le monde, c'est vraiment une image bien différente de ce qu'on avait en 1995. En 1995, 8 pays européens étaient en tête. Et aujourd'hui, on a 4 pays africains, 3 pays européens et 3 pays d'Amérique latine. Donc il y a une diversification des pays et on voit que les progrès ont été vraiment cross-cutting, si je peux dire.
Alors justement, s'il vous plaît, citez ces pays africains avec le fameux Rwanda, bien entendu.
Bien sûr, aujourd'hui, en haut de la liste, on a le Rwanda avec 63,8% de femmes. C'est le plus haut taux jamais atteint dans un parlement. Le Rwanda a aussi été le pays qui a réalisé les plus gros progrès au cours de ces 20 dernières années, puisqu'il a augmenté de plus de 50% le nombre des femmes au parlement. Et il a aussi une femme à la tête de son parlement. Donc je crois que là, le Rwanda est vraiment un des pays qui a le mieux progressé au cours de ces 20 dernières années. Mais si on regarde dans les 10 premiers pays, on a aussi les Seychelles et l'Afrique du Sud. Et suit juste après ça, on a la Namibie, le Mozambique et encore un peu plus loin l'Angola, etc. Ce qui ressort, ce sont encore une fois des pays qui ont eu l'opportunité de faire des réformes de fond dans leur pays parce qu'ils sortaient donc d'une situation de conflit et qu'ils ont pu rebâtir à neuf un peu une partie de leur pays. Et en faisant cela, ils ont ouvert la voie à plus de femmes au Parlement.
Alors, cependant, l'on observe un ralentissement en 2014 et le secrétaire général de l'Union interparlementaire, Martin Chungong, a même précisé que l'heure n'était pas à la complaisance.
Absolument, et je crois que c'est la leçon de 2014. En 2014, il y a eu seulement un progrès de 0,3% de points de pourcentage, alors que l'année d'avant, on avait fait un progrès de 1,5 points de pourcentage. Et je crois que la leçon de 2014, c'est qu'il n'y a pas eu de grosses catastrophes, mais il n'y a pas eu de progrès assez significatif pour avoir un impact important sur la moyenne mondiale. Et je crois qu'il y a donc un ralentissement général. Ce qui est plus inquiétant, par exemple, au niveau de l'Afrique, c'est que la moyenne régionale africaine a baissé en 2014. Elle a perdu 0,2 points, je crois. Et donc, ça, c'était assez inquiétant parce que effectivement, il ne faut pas baisser la garde. Je crois que la leçon, c'est que rien n'est acquis. Et si on n'avance pas, on risque de reculer. Donc, il faut constamment progresser et prendre des mesures proactives afin d'ouvrir encore plus d'espace pour les femmes.
Voilà, c'était Karine Jabre, chef de programme sur l'égalité des genres à l'UIP.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, la Voix de l'Amérique, un rappel des grands points de l'actualité. Nouveau massacre attribué à Boko Haram dans un village du nord-est du Nigeria. Au moins 68 personnes, dont des jeunes, ont été tuées par des hommes très lourdement armés à Djaba, dans l'état de Borno. C'est ce que rapporte l'AFP. Et d'autres exactions ont été rapportées à Gouza. Les djihadistes qui ont rassemblé des troupes dans cette ville ont exécuté des jeunes hommes qui étudiaient le Coran devant la résidence d'un responsable religieux local.
Mise en garde du président burkinabé Michel Kafando à l'armée. Tenez-vous loin des chapelles politiques.
Paul Kagame pourrait bientôt se joindre à la longue liste des présidents africains qui s'éternisent au pouvoir. Dans les médias rwandais, les voix se multiplient en faveur d'une réforme constitutionnelle.
À la mise en onde ce soir, nous avions Lionel Gaïma et Micha Dubinsky à la présentation. Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville, sur 101.9 FM, à Lomé, 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui,